Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
Bonjour à tous les passionnés de la vigne du vin, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter de la boutique Nicolas de Toulouse au 6 place Victor Hugo sur 101.8. Aujourd'hui, c'est le numéro 1093 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, mon cher Frédéric. Retrouvez-nous sur Facebook et également Instagram. Invino Sud Radio, au menu une belle balade entre le Roussillon et le Bordelais qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Jean-François Quenin, propriétaire du château de Pressac et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Il y aura également gagné 6 verres Open Up Round de la marque Chef et Sommelier. Et pour tout ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, et puis Frédéric Brochet, docteur en œnologie. Bonjour à tous les deux, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Jean-Emmanuel Parcé, propriétaire du domaine de la Rectorie dans le Roussillon. Bonjour Jean-Emmanuel.
Bonjour.
Alors, vous êtes conscient quand même de vivre dans la plus belle région du monde et de porter un nom de famille extraordinaire, non ?
J'en suis conscient.
Matin, midi, soir, quoi. Oui, c'est vrai.
Alors, racontez-nous
la famille Parcé et cette belle région du Roussillon. Racontez-nous un peu l'historique.
Alors l'historique, c'est mon père Thierry Parcé et mon oncle Marc Parcé qui ont créé le domaine en 84. Et ils ont repris des vignes qui étaient dans la famille depuis plusieurs générations, qui étaient à la cave coopérative. Et ils ont préféré faire leur propre vin. Et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti les vignes et ils ont créé ce domaine en 84. Avec, au départ, c'était 7 hectares.
D'accord.
7 hectares de vignes. Et puis après, on a pris d'autres vignes, d'autres parcelles. Et là, actuellement, on est à 34 hectares.
Au total. Donc vous êtes en une double appellation, hein, Collioure et Bagnoul, c'est ça ?
Oui, au départ, on s'est vraiment fait connaître avec les vins doux, les Bagnoul Srimage, et dans les années 80. Et après, on est vite passé sur le Collioure, donc c'est un vin rouge sec, et le Collioure blanc aussi. On s'est fait connaître aussi avec le Collioure blanc. En 93, on a fait le choix de vinifier les grenages gris pour en faire des vins secs. Ces grenages gris qui étaient cueillis et mis en cuve avec les grenaches noires, parce que c'est beaucoup de vignes qu'on plantait.
D'accord. Complanter, ça veut dire quoi, Frédéric?
Complanter,
parce que là,
ça veut dire qu'en fait, c'est historique de l'ensemble du vignoble mondial, d'ailleurs, et qui se pratique encore dans certains pays, qui revient même à la mode, qui consiste à mélanger, en fait, les variétés, donc mélanger les cépages, au sein d'une même parcelle. Alors, c'est la pratique classique à Châteauneuf-du-Pape.
Mais ça, c'est pour les feignants, ça, non? Parce que normalement, on fait une parcelle avec des grenaches gris, une autre avec des grenaches
noires. Justement pas, on faisait pas du tout ça, parce que d'abord, à l'époque, il y a longtemps, on n'identifiait pas toujours très bien les cépages, donc il n'était pas toujours possible de bien les séparer. Et puis, on les multipliait de manière simple, c'est-à-dire qu'avant le phylloxéra, on coupait un brin sur une vigne et puis on plantait directement pour faire le pied suivant. Et donc, ceci induisait des mutations qui pouvaient parfois se produire, et notamment dans le Roussillon, on peut trouver comme ça, tout mélanger, les différents types de grenache, c'est-à-dire les trois couleurs du grenache, le blanc, le gris et le noir, qui se mélangent dans une même parcelle, voire parfois beaucoup d'autres variétés. Et la pratique redevient à la mode parce qu'elle limite, en fait, l'expansion des maladies,
aussi,
les problématiques de multiplication des maladies, qui finalement se multiplient beaucoup plus simplement quand tous les frères sont jumeaux, ils sont tous malades en même temps. Ils se vendangent tous en même temps, mais ils sont tous malades en même temps, c'est l'un des problèmes.
Jean-Emmanuel, dites-nous, c'est bad news, ça. Ce sont des vins doux naturels, ils sont vraiment naturels ou pas ?
C'est pendant la macération, on rajoute de l'alcool, 9% d'alcool, mais c'est de l'alcool vinique à 96, pour stopper la fermentation alcoolique. Donc,
et est-ce que ça explique le potentiel de garde qui est assez incroyable, quoi.
Oui, ça se garde.
Tant Camon avait une petite bouteille déjà à l'époque, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, oui.
Alors avant les Bagnoules, les vins doux sur le cru, c'était surtout des rancios ce qu'ils faisaient sur Bagnoules.
Ah, qu'est-ce que c'est qu'un rancio ?
En fait, c'est des blancs qu'on laisse vieillir à l'extérieur en barrique.
D'accord.
Et qui, du coup, ça peut ressembler un peu à un Rérès ou à un vin jaune. C'est assez sec, hein, c'est pas doux. Au 19e siècle, on faisait surtout ce type de vin.
Et ça, c'est toujours à la mode, Frédéric, parce que il y a des trésors dans cette belle région, dans ce beau Roussillon. Est-ce qu'il y a des consommateurs de trésors en face ?
Alors, il y a des consommateurs de trésors. C'est vrai que ce sont des vins dont le style n'a pas, on va dire, conquis les palais récents, les palais modernes, les palais des jeunes. Ce qui est curieux, d'ailleurs, puisqu'ils ont justement une histoire qui est très, très longue. C'est finalement peut-être les plus vieux vins qu'on ait fait. C'est en tout cas les vins les plus anciens avaient probablement ce goût-là. Et d'ailleurs, la dénomination de vin doux naturel, pour reprendre la question que tu posais tout à l'heure, Alain, était tout à fait justifiée, puisque la concentration en sucre que qu'atteignent ces vins traditionnellement peut justifier le fait qu'on n'a pas besoin de rajouter de l'alcool, parce que le niveau de concentration est suffisant, de sorte que le vin atteint parfois 15 ou 16 spontanément à travers sa fermentation, et il lui reste encore du sucre à transformer, tellement il a été concentré par le vent. Alors pour régulariser la production, on ajoute parfois de l'alcool, comme l'a dit M. Parcé, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et cette pratique-là existait avant même la distillation, la découverte, si on peut dire, de l'alcool distillé, et elle existait déjà à l'époque romaine, et les vins romains les plus anciens étaient un peu de ce type-là. Donc finalement, il faut les redécouvrir et il faut s'y intéresser. Ils ont plein d'usages absolument merveilleux.
Au niveau gastronomie, d'ailleurs, Jean-Manuel, on peut les consommer avec quoi, ces bagnoles ?
Les vins doux, ça peut très bien, ça peut être avec un fromage, avec un bleu, ou
un dessert aussi,
en dessert, souvent.
Et le domaine de la rectorie, d'où vient l'origine, rectorie,
C'est parce que il y a une chapelle romane, une vieille chapelle romane qui est dans la même rue, qui est pas très loin du domaine. Donc,
d'accord. Vous avez pas encore 40 ans, vous faites partie des jeunes vignerons dynamiques. Hein. Vous avez voyagé un peu avant de revenir sur le domaine familial, ou vous êtes directement, vous avez fait Bagnouls?
Bah, j'ai passé quelques années à Paris pour me former dans carrément autre chose, dans la sculpture et la peinture. Et
donc,
j'ai une autre activité à côté que je continue à
Quelle
faire.
Quelle activité?
De peintre et sculpteur.
Mais vous exposez?
Oui, je continue à exposer.
Vous avez une galerie à Bagnouls, à Collioure, non?
À Bagnouls, non. Moi, j'ai mon atelier, mais après, je fais des expos un peu partout.
Ah, c'est
votre deuxième passion, finalement, après vin, alors.
Et après, ça me manquait un
double
peu.
Double artiste, quelque part.
Après quelques années à Paris, ça me manquait vraiment. Et j'ai voulu revenir sur les terres familiales. Ouais. Ah, ouais.
Donc, alors, la rectorie, donc, au niveau de la distribution, vous produisez en moyenne combien de bouteilles par an aujourd'hui, en tout cas?
Sur la rectorie, à peu près 120 000 bouteilles.
120 000 bouteilles. Et 120 000 bouteilles, donc vous ne les buvez pas tout seul, vous les vendez
non,
un peu.
Non, c'est... il faut bien. Quand même.
Qu'est-ce que vous les vendez?
Je ne pas là.
Vous les vendez où alors? Avec modération toujours. Hein.
C'est dans le secteur trad, hein. C'est pas dans le... on ne vend pas en GD.
Donc, alors, trad GD pour le consommateur.
Chez les cavistes, les restaurateurs et l'hôtellerie.
Et l'hôtellerie, quoi. Vous faites aussi de la vente directe, peut-être?
Oui, un petit peu. Mais ça, ça représente pas une grosse part de marché sur le domaine. Mais on en vend un petit peu dans l'année, mais surtout en été, quand il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent sur Bagnouls.
Absolument. Alors, pour comprendre, là, vous avez deux appellations, les Collioure, les Bagnouls.
Oui.
Et ça concerne plusieurs villages, et on choisit ce qu'on fait. Racontez-nous un peu.
C'est ça, oui, c'est quatre communes. Il y a Cerbère, qui est vraiment proche de la frontière espagnole. Il y a Bagnouls, Port-Vendres et Collioure.
Et d'accord.
Quatre communes, et il y a à peu près 1300 hectares de cultiver
au total,
pour les deux appellations.
Et le vigneron choisit sur ces quatre communes s'il veut faire du vin doux.
Du vin doux, ou du vin sec.
C'est lui
et
qui
on
choisit,
a la
quoi.
Chance aussi, quand même, sur ce cru, d'avoir des vieilles parcelles. Bon, en tout cas, moi, sur le domaine, ça va jusqu'à 140 ans. J'ai vraiment des vieilles parcelles. Et tous les ans, dès qu'il y a un pied qui meurt, on le remplace. On fait de la sélection massale.
Par un petit jeune.
On récupère les vieux bois.
Et Frédéric Rocher, monsieur le docteur, dites-nous là, Jean-Manuel nous parle de vignes 140 ans. Est-ce que c'est forcément bon quand c'est vieux? Je parle de vignes.
Alors, il y a une espèce d'histoire qui fait que tout le monde pense que les vieilles vignes produisent toujours des meilleurs raisins que les jeunes vignes. Si on regarde ça du point de vue scientifique, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, qui est une étude qui a été menée pendant 30 ans en Allemagne, de manière très rigoureuse, et qui ne montre pas ça. C'est-à-dire qu'il montre que finalement, les vieilles vignes produisent pas, toutes choses égales par ailleurs, produisent pas mieux que les jeunes vignes.
Le problème, mieux ou meilleur, vous voulez dire?
Meilleur. Si on fait cette analyse, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si on considère leur baisse de rendement, leur évolution, voilà. Ouais. Donc si on fait exactement la même chose, en fait, en général, les jeunes vignes, elles sont plus fertilisées, donc elles produisent des raisins un peu plus grand nombre. Mais si on arrive à mettre tous les paramètres au même niveau, on ne voit pas, quand on fait une analyse un peu froide, on ne voit pas de différence significative. Cet effet-là est aussi un peu, on va dire, appuyé par le fait que l'amélioration de la sélection des variétés fait qu'on a des fois des variétés qui sont plus qualitatives parce qu'elles ont été mieux sélectionnées dans le temps. Donc entre une vigne qui a 100 ans, eh ben, en 100 ans, on a choisi
des choses sont passées
au sein des mêmes cépages. On a choisi des sous-cépages, si on peut dire, qui sont en général des clones ou des groupements d'individus qui sont plus productifs, enfin qui sont plus qualitatifs. Donc ces effets-là sont un peu à contrebalancer. Mais c'est vrai que classiquement, quand même, quand on goûte des vins de vieilles vignes, on trouve toujours qu'ils ont plus de matière, plus de fond, plus d'allonge, plus de longueur, et qu'ils sont donc finalement un peu plus intéressants, et donc qu'ils se vendent un peu plus cher, aussi du fait qu'ils sont plus difficiles à cultiver, et aussi avec des rendements plus faibles.
Jean-Anel, on parle un peu des colliures maintenant. Colliures, vous avez les trois couleurs ?
Oui, alors comme je disais, pour le colliure blanc, on a eu l'appellation en 2002. Oui. On a commencé à le faire en 93, c'était en vin de Pays de la Côte Vermeille. Et les colliures rouges et les colliures rosées.
Et au niveau donc de vous êtes la tendance rosée là qui est c'est quand même une vague qui est incroyable. C'est pareil aussi sur les colliures. Vous avez un pourcentage plus important en rosé ou alors vous maintenez les rouges et les blancs.
Sur le domaine, en tout cas sur la rectorie, on fait pas énormément de rosé. Hein. On a fait une petite partie. Après, il y a un tiers de blanc et puis après surtout des rouges.
Et les rouges, donc ce sont des vins à consommer jeunes sur le fruit. Il y a un potentiel de garde. Il faut les attendre.
J'ai la cuvée côté mer avec un élevage qui est plus court. Et je trouve qu'on peut le consommer assez rapidement, mais les autres cuvées, il faut les attendre quand même. Moi, je pense qu'il faut conseiller 3 ans avant de les...
3 ans avant de la bouteille, quoi. Oui. Vous confirmez, parce qu'il y a aussi des degrés, c'est un réchauffement climatique. Hein. Il y a pas mal d'alcool, vous dites combien sur les bouteilles en moyenne ?
En général, c'est à 15,5.
15,5, quoi. Bon, alors vous bidouillez, on arrive à 14,5, mais non, je plaisante, vous bidouillez jamais, comme aucun vigneron français, ça se saurait. Mais c'est vrai que pour un client, le consommateur lambda, il voit sur l'étiquette un 14, déjà, ça commence à tilter, là. Oui. Et quand on passe les 15, il se dit, je pars en courant,
Et du coup, il faut récolter assez tôt. Pour éviter d'avoir des degrés trop élevés, on commence à accueillir à 13,5. Et après, ça, au bout d'une semaine, deux semaines, ça monte très vite.
Hein. Oui, Frédéric, c'est un des soucis peut-être qu'on peut avoir dans le vin, dans le sud de la France au sens large.
Oui, il faut quand même voir aussi que globalement, on boit de moins en moins de vin et on attend du vin qui soit de plus en plus puissant. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, la clientèle demande des vins qui sont moins alcoolisés pour plein de raisons, on va dire, sociales. Mais du point de vue gustatif, il est clair que
tout dépend de l'équilibre.
11 degrés et un vin à 15 degrés. Tout dépend de l'équilibre qu'on peut trouver.
On peut avoir un vin à 11 et pas du tout équilibré, on va ressentir beaucoup plus l'alcool que...
C'est ça. Et puis en même temps, donc effectivement, sur ces terroirs-là où on a quand même une grande concentration liée à la climatologie extraordinaire, la concentration en alcool fait partie du type du vin et qu'on va aussi retrouver dans beaucoup de vins d'Espagne qui eux sont particulièrement à la mode d'ailleurs.
Il y a un site internet peut-être pour en savoir plus. Site internet de la rectorie, c'est
oui, bah il faut marquer domaine de la rectorie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Manuel Parcé. Vous êtes quelqu'un de juste formidable. Vous aussi, vous êtes formidable, Frédéric Brochet. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Toulouse pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner 2 places pour le WST, premier salon mondial de l'onotourisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023 et 6 verres Open Up Round de la marque Chef et Sommelier. Tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
Retour chez le caviste Nicolas au 6 place Victor Hugo à Toulouse pour cette émission délocalisée. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite Frédéric Brochet, Docteur Brochet et le Vino Quiz.
Alors le Vino Quiz, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très très beaux cadeaux. Cette semaine, 2 places pour le WST International Trait de Fer, le mondial de l'onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et 6 verres Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Alors la question de la semaine dernière était... À quoi font référence les noms de chaque cuvée du domaine Maestracci, dont Camille Anaïs Choix est la propriétaire en Corse ? Alors, la réponse A proposée était l'histoire du domaine de la famille Maestracci. La réponse B, les musiques préférées de Camille Anaïs. Et la réponse C, la météo, le jour de la mise en bouteille. Et la bonne réponse était la réponse A.
Très bien. Alors, cette semaine, Frédéric.
Alors cette semaine, la question porte sur notre invité. Outre le vin, quelle est la deuxième passion de Jean-Emmanuel Parcé, le propriétaire du domaine de la rectorie dans le Roussillon que
Alors,
vous venez d'entendre ?
Très, très, très beau domaine.
Absolument. La réponse A est la peinture et la sculpture.
D'accord.
La deuxième réponse B, c'est la luge.
La Luge.
Ah oui, il n'est pas loin du Mont Canigou.
Oui, absolument. Et puis, oui.
Et la réponse, c'est ouais. La trottinette, parce que les quais de Bagnols et de Collioure sont particulièrement intéressants.
Donc, c'est alors, A, B ou C. Hein.
A, B ou C. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trait de Fer, le mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Sivert, Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Frédéric Brochet, de Vino Studio Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant Jean-François Conin, propriétaire du domaine de Pressac à Saint-Émilion. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, vous avez fait un grand virage dans votre vie. Hein. Comment on passe de Darty aux vignes de Saint-Émilion ?
Bon, on dit un peu fou. avec mon épouse, on commençait à acheter une petite propriété à Lalande de Pomerol pour se faire plaisir et placer un peu d'argent. Et au bout de 2 ans, le virus a pris, donc j'ai quitté Darty, je suis allé à l'école à Bordeaux.
Vous étiez actionnaire de la boîte ?
Pardon ?
Vous étiez actionnaire de Darty ?
J'étais dans la direction générale, oui.
D'accord.
Et donc je suis allé à l'école à Bordeaux, au lycée agricole.
À quel âge ?
À 48 ans.
48 ans, on est à l'école, c'est
voilà,
bien ça.
C'est bien. Il allait à la cantine avec les troisièmes, c'est très drôle, le stage-là.
vous avez relancé des pots de yaourt sur les copains ou...
Non, j'ai dit arrêtez, ça suffit, je suis pas là pour faire le con. Voilà, pardon.
Quel lycée agricole c'était ?
C'était le lycée de Blanquefort.
Blanquefort.
Voilà. Donc j'ai fait un brevet professionnel. Voilà. J'ai été apprendre comment tailler.
Vous avez faussé la moyenne d'âge des étudiants, quoi.
J'ai tout faussé.
Et alors,
ensuite... Et après ça, on a cherché une propriété plus grande et donc on a acheté le château de Pressac en 97, ça fait 25 ans le mois prochain, qui était une grande propriété, un peu à réveiller, avec un potentiel fabuleux. Et ça fait 25 ans qu'on travaille d'arrache-pied, on a replanté 90% du vignoble, on a refait les chais.
Vous amusez quoi.
On s'est amusé beaucoup, on a investi beaucoup d'argent.
Ouais, j'imagine quoi. Et votre première vendange alors, c'était, racontez-nous un peu, c'était tout bon ou tout loupé ?
C'était moyen, on va dire. On a fait
vous avez prié, vous êtes parti à Lourdes avant.
On a fait ce qu'on a pu, ouais. Avec les outils qui étaient sur place, qui n'étaient pas terribles. Et on s'est vite aperçu de tout ce qu'il fallait arranger.
Alors Hélène. Justement, moyen, vous vous en êtes rendu compte sur le moment que c'était moyen ou c'est avec le recul, vous vous dites, ouais, bon.
Alors en fait, par rapport à ce que j'ai acheté, c'était en plus bien, beaucoup plus mauvais état que ce que je croyais.
Il ne faut jamais croire les vendeurs.
Voilà, mais il y avait un potentiel largement, largement supérieur.
Heureusement. Donc effectivement, 25 ans plus tard, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, vous en êtes à 47 hectares.
41
de vignes. Voilà. Oui. D'un seul tenant tout autour du château. C'est assez rare. Hein.
Bah, c'est presque unique à Saint-Émilion. Ouais. C'est avec, donc on a le château, qui est un vrai château, est en haut de la colline. Et le vignoble est tout autour de la colline. Donc, on a une partie sur le plateau calcaire. Et ensuite, on a tous les coteaux autour de la colline, dont une grande partie en terrasse que j'ai reconstruit parce qu'ils avaient les coteaux avaient été abandonnés parce que trop pentus avec la mécanisation. Et donc, j'ai pu remettre tout ça en culture en construisant des terrasses. Donc, ça a été des très, très gros travaux.
Oui, effectivement, ça fait un peu travaux d'Hercule. Et pourquoi replanter 90% des parcelles ? C'est que
les vignes étaient en très mauvais état.
Elles étaient âgées, elles étaient malades.
Il manquait un pied sur deux. Ouais. Voilà, donc on a tout repris à zéro. On a travaillé longtemps avec Claude Bourguignon, qui m'a aidé parcelle par parcelle à réorganiser le vignoble, à choisir les porte-greffes, à choisir les cépages. Voilà, donc on a fait les choses calmement, mais je crois sans trop se tromper, sans trop faire d'erreurs.
Il semblerait que vous n'ayez effectivement pas fait beaucoup d'erreurs, puisque vous êtes tellement devenu un modèle que ça vous a pris un petit peu de temps, mais voilà, président de l'Union Saint-Émilion-Pomerol-Fronsac, président du Conseil des vins de Saint-Émilion, vice-président de la Fédération des grands vins de Bordeaux et membre du bureau du CIVB, on peut supposer donc que vous êtes un petit peu devenu un modèle quand même avec ce que vous avez fait.
C'est-à-dire que je me suis investi au syndicat viticole de Saint-Émilion. Et puis quand vous vous investissez, que vous mettez le doigt dedans et vous aspirez quoi.
ça fait peur. Ça fait.
Ça prend beaucoup de temps aussi.
Oui, ça je veux bien
mais
croire.
C'est intéressant hein.
Ce château de Pressac, voilà vos deux casquettes. Du coup, vous les avez menées comment c'était. C'est vous consacrez combien de temps à chacune de vos casquettes?
Alors, je suis plus du tout maintenant dans le collectif. J'ai arrêté en 2016. Et là, maintenant, je suis toujours à 100% dans la, dans la gestion du château, et ça me prend de plus en plus de temps, finalement. C'est sans fin, hein. Plus on met le doigt dedans, là aussi, et plus
on est aspiré. L'aspirateur chez Darty, ça revient souvent. Hein. Vous avez quand même des grosses séquelles de votre métier précédent.
Bien sorti, Lalette. Ça s'était répété. Hein,
mais non, mais
deux
fois
du boulot à bord d'une vidéo sur la radio.
Ça,
ouais.
C'est ça.
Oui, alors revenons au vin,
c'est
là.
C'est ça,
oui,
voilà, oui. Revenons au vin. Donc, votre nouveau chantier, c'est la protection du végétal sous toutes ses formes. Enfin, c'est pas un nouveau chantier, mais vous avez fait une étude sur la question récemment.
Oui, alors... On a fait ça un peu comme M. Jourdain fait de la prose. On s'est intéressé à l'environnement, on s'est intéressé à l'impact qu'on avait, au tassement des sols. Ça, c'est Claude Bourguignon qui m'a fait comprendre qu'il fallait pas tasser les sols. Et puis, comme on a une grande propriété, ben on a essayé de développer la biodiversité. Donc, on a fait une étude récemment et on a découvert beaucoup plus de choses qu'on ne croyait.
Il y a plein de bébêtes chez vous.
Il y a plein de bébêtes, comme vous dites. Il y a une vingtaine d'oiseaux protégés. Il y a des écureuils roux. Il y a des chouettes hulottes. Enfin, bref. Il y a des espèces invasives aussi, on a trouvé. Donc, ça, il va falloir s'en occuper.
Qu'est-ce qu'il y a, par exemple?
Des écrevisses américains.
C'est super bon, ça.
Ouais, c'est super bon, mais c'est pas très bon pour la biodiversité. Mais parce que ça mange les écrevisses.
Il faut les manger avant qu'elles mangent.
Dépêchez-vous.
Bon, il y a des bébêtes. Alors, il y a des chauves-souris, il y a des coccinelles, il y a des...
En fait, c'est un zoo chez vous, j'en pense.
C'est un zoo, oui. Il y a aussi des trucs qu'on aime moins voir, les sangliers, des chevreuils, parce que ça fait un peu de dégâts.
C'est parce que vous avez des beaux raisins. Ils ne se trompent pas en général. Non, mais ils vont là où c'est mûr.
Donc on a également des... Donc on a planté des haies, on a laissé des taillis. On a beaucoup les talus des terrasses qui sont enherbés. On a des murs de pierre qui sont des extraordinaires réserves pour tous les reptiles et les insectes, etc. Donc voilà, c'est très riche.
Voilà, mais tout ça, il faut le financer. Vous les vendez un peu vos bouteilles ou pas alors?
J'essaye, mais je ne sors pas beaucoup d'argent de la propriété, parce que je remets tout, voilà.
Et alors, donc, vous vendez combien de bouteilles au total, en moyenne, hein, hors événement climatique?
On est entre 150 et 200 000 bouteilles par an.
D'accord. Et vous les vendez comment? Vous avez un réseau de distribution
On vend essentiellement par la place de Bordeaux, et les ventes se répartissent à peu près en trois tiers, un tiers en France, un tiers en Europe de l'Ouest, et un tiers ce que j'appelle le grand export, c'est-à-dire Amérique et Asie.
Et le no-tourisme, ça vous parle?
Alors, le no-tourisme, là aussi, on a fait ça un peu comme M. Jourdain. C'est-à-dire que quand
visite des chauves-souris, des écrevisses.
Voilà, c'est-à-dire que quand les gens...
Laissez-moi deviner, vous avez été aspiré. Non? Bon.
Un peu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand des personnes sont venues et sonnaient, bah, j'ai fait les visites. Et je suis allé jusqu'à 2000 visites par an tout seul.
Votre sonnette, elle est bonne. Hein,
elle est bonne. Jusqu'à ce que ma femme me dise, ce serait peut-être bien que tu t'arrêtes un peu le samedi et le dimanche. Donc, j'ai pris une personne, puis deux, puis trois. Donc, juste avant le Covid, on était à 10 000 personnes
par an. C'est énorme.
Et là, on est à 4-5 000. Ouais.
Bah, c'est chouette.
Ils achètent un peu, quand même?
Oui.
D'accord. Donc, la visite est gratuite, je suppose?
Non, elle est payante.
Ah, comment vous
l'avez? Elle est payante.
Il faut bien financer les trois salaires.
Absolument. On facture 20 euros par visite.
D'accord.
La visite dure aujourd'hui, on fait des visites assez qualitatives, donc elle dure 1h30.
D'accord.
On fait déguster 80, on fait déguster les vins en aveugle. Donc, on fait deviner aux gens les...
Pour 20 euros, ils ne savent même pas ce qu'ils boivent.
Non, ils ne savent pas. Non, mais ils trouvent en général. Hein, quand on leur explique bien, ils trouvent.
Ils cherchent quoi? Les millésimes?
Les millésimes. Alors, on fait d'abord goûter un vin dans un verre noir pour leur faire deviner ce que c'est. Mmh. Et ensuite, on leur donne trois vins. Deux vins du même millésime, premier et deuxième vin. Et un vin vieux. Et donc, on leur fait trouver par la couleur, les arômes, etc. Et ils trouvent.
Et ils cherchent le rosé aussi?
Le rosé, il se trompe beaucoup parce qu'on fait un rosé qui est élevé en barrique d'acacia.
D'accord.
Ah oui, donc à l'aveugle.
À l'aveugle, ça ressemble à du vin blanc.
Et alors ce rosé, il n'est pas en Saint-Émilion, dites-nous là.
Pardon?
Jean-François, le rosé, il n'est pas en Saint-Émilion.
Ah non, il est en Bordeaux.
En Bordeaux.
Et on vend tout au château, tout par...
Il est rosé-rosé ou il est rosé un peu foncé?
Il est rosé clair.
D'accord. Donc voilà. Vous suivez la mode, Hélène?
Absolument. Donc château de Prayssac et tour de Prayssac sont vendus aussi au domaine. Quand on vient vous voir, on peut les acheter aussi au domaine?
Oui.
Très bien. Et puis sinon, bah, c'est négoce, on va dire, normal.
C'est négoce normal. On essaye de travailler en collaboration avec le négoce, c'est-à-dire de construire la distribution. Ça, c'est probablement un peu mon ancien métier
L'aspirateur.
Qui m'inspire
le concept de l'aspirateur.
Donc, j'essaye beaucoup de me préoccuper du client final. avec le négoce, voir où est.
Ça, c'est important, ça.
Voilà.
Frédéric, docteur Brochet, le potentiel de garde d'un Saint-Émilion, on peut l'attendre vraiment longtemps ?
Oui, alors il ne faut pas forcément les attendre toujours trop longtemps, parce que les Saint-Émilion font partie des vins quand même qui font du Bordelais, qui ont une véritable souplesse dès leur jeunesse.
Donc combien en général ?
Bah, on peut les garder jusqu'à une dizaine d'années, une dizaine d'années. Mais une petite dizaine d'années, c'est bien, surtout les vins des châteaux de Pressac qui ont une belle concentration.
Merci beaucoup Frédéric, merci également à vous, Jean-François, également Jean-Emmanuel et Hélène, mais également un grand merci aux millions d'amateurs de vins qui nous écoutent chaque week-end, j'espère avec beaucoup de passion, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Plus d'actualités, il faut aller sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook et l'autre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 12h30, précise, pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Jérôme Corsodon, vigneron emblématique, s'il en faut, de la vallée du Rhône, ainsi que Benoît Bordery, propriétaire de l'excellent château Boulevard dans le sud-ouest. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vidéos en français et surtout respectez, n'oubliez jamais, la plus grande des modérations. Salut, salut.
Sud Radio, Invino.